si je me souviens bien, c'est le verset 6 du chapitre 4 dont j'arrive. Okay, vous avez vos références sous les yeux? C'est bien ça? Est-ce que je peux d'abord avoir un livre de Devarim avec Rachid? Voilà, voilà, ça va, ça va. Ça va, ça va, j'en ai un. Bon, alors je vous rappelle vraiment brièvement ce qu'on a fait dans les deux cours précédents. Et j'espère qu'on arrivera à terminer ce premier paragraphe ce matin. Alors, vous vous rappelez que la traduction du premier verset est très difficile en français. Je ne sais pas comment dire. Il n'y a pratiquement pas de traduction littérale possible du verset qui forme une phrase cohérente. On va reprendre les six mots de ce premier verset. Vous allez les suivre avec moi. Mais avant ça, rappelez-moi, est-ce que vous avez étudié Rashi sur ce verset avec Rimbaud déjà? Oui, non? Bon. Bien. Alors, le premier mot, Shema, ça peut se traduire facilement, et ça veut dire surtout, qui peut répondre, mais très vite, qu'on ne perd pas de temps. Qu'est-ce que ça veut dire, Shema?
Écoute et prends garde.
Voilà. Ça, nous avons une longue parenthèse sur la manière de connaître en comprenant. En français, ça s'appelle l'entendement, et vous voyez à peu près la même racine. C'est bien clair. Quelle est l'autre manière de connaître?
De voir.
De voir. Quelle est la plus importante, la plus préférable?
De voir.
Les deux.
Ne vous laissez pas impressionner. Chaque fois que je pose une question, alors vous avez peur que ce n'est pas ça dans votre truc. Non. J'ai peut-être mal formulé la question. Les deux manières de connaître, par la vision et par l'entendement. Par la vision, et ça veut dire aussi une certaine compréhension, pas simplement percevoir, voir, mais comprendre ce que l'on voit. Comprendre par ce qu'on a vu. Et d'autre part, par l'entendement, par oui, comprendre parce qu'on a entendu quelqu'un expliquer. Par conséquent, le but ultime, c'est d'arriver à voir. Parce que la connaissance par la vision, quel est le mot en hébreu qui correspond à Shema Israël? Je vous avais dit cela, l'autre expression qui correspond à la connaissance par la vue. Non, comment dit-on voir en hébreu? Roé. Irot. Qu'est-ce que ça veut dire, Roé? Celui qui voit. Un voyant, Roé.
Celui qui garde aussi.
C'est quoi?
Celui qui garde.
Roé, le berger. Roé Israël avec un haïm. Ne vous trompez pas. Et essayez de vous séfarabiser un petit peu, ça sera plus facile pour la grammaire. Bon, je reviens à ce que je disais. Nous avons l'expression « Shema Israël » et c'est donc une exhortation à la connaissance par l'entendement. C'est clair? Alors, quelle est l'autre expression qui est l'exhortation à la connaissance par la vue? Comment dit-on « voir » à l'impératif deuxième personne du singulier? Tu verras, ça c'est le futur. Tirer. Ça ne veut pas dire que c'est faux, parce que dans l'hébreu moderne, on se sert du futur pour dire l'impératif aussi. Donc, mais donnez-moi l'impératif lui-même. Alors là, qui t'a dit mal plus. Ré-é. Voix. Ré-é. C'est clair? Vous ne connaissez pas ce mot-là? Eh bien, prenez-le. Alors, vous avez Shema Israël.
Quand on
conjugue,
on dit l'impératif, c'est...
Parfait.
Quand on conjugue, c'est ré, après c'est tiré.
C'est la forme future, cela. Ré-é, pas tiré. Tiré, c'est le futur, tu verras. Ré-é, vois. Alors, vous avez des versets parallèles à Shema Israël qui commencent par Ré-é Israël. C'est l'exhortation à la connaissance, mais par la vision. Alors, je vais vous dire ça en français. La connaissance par l'entendement est une connaissance médiate. Que ça veut dire médiate? Ça veut dire qu'il y a un intermédiaire qui m'a expliqué. C'est clair? Vous vous rappelez de cela? Tandis que Ré, c'est une connaissance directe par moi-même. Par conséquent, dans tous les cas, quelle que soit l'importance de la connaissance par Shema, je peux comprendre de quoi il s'agit parce que quelqu'un m'explique. La connaissance par Ré, quand j'ai l'expérience personnelle, est finalement supérieure. Au point de vue de la halakha, au point de vue de la législation, quand quelqu'un porte un témoignage en disant « j'ai entendu dire que », c'est un témoignage. Bon, c'est un témoignage au second degré. Si quelqu'un vient devant le tribunal et dit « j'ai vu que », ça c'est un témoignage au premier degré. La formule de la halakha, c'est « gedola reiya mishemia ». La vision est plus grande que, comment on dit en français, j'oublie. Bon, l'entendement, vous avez compris là. Mais ça n'enlève en rien l'importance considérable de la connaissance par Shema. On appelle Mipi Hashemua, à travers l'entendement. Parce que tant qu'on n'est pas capable personnellement de cette connaissance directe, personnelle, pas subjective, le mot serait faux, mais individuelle, c'est la connaissance ultime par soi-même vraiment, alors on doit passer par la médiation de cette connaissance médiate qui est par Shema. En particulier dans notre sujet, cette exhortation à l'unité de Dieu comme souveraineté de l'unité des valeurs est une exhortation à ne pas oublier ce dont on a eu expérience une fois, mais qui va se cacher. Vous vous rappelez de cela ? On a cherché les raisons pour lesquelles ce verset est dit à Israël, c'est qu'il y a une exhortation, donc, le fait de prendre garde, comme Dieu traduit, le fait que ça risque d'être oublié. Ce n'est pas quelque chose d'évident dans l'expérience de la vie de tous les jours. Nous sommes dans un monde qui renvoie à la dualité des valeurs à tous les niveaux, vous vous rappelez ? Simplement, retenez au point de vue même des formes grammaticales de la parole humaine, dès qu'on dit blanc, il y a noir, dès qu'on dit jour, il y a nuit, dès qu'on dit grand, il y a petit. Une analyse dans Platon à ce sujet, et qui va un peu plus loin, je vous la cite complètement, et il y a un cas particulier, c'est que 1 et 1, ça fait 2. Mais blanc et blanc, ça fait blanc. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a quand même le problème de cette dualité, finalement, il va se résoudre dans la lecture mathématique du monde. La lecture mathématique du monde renvoie pratiquement irréversiblement à une expérience de dualité. Tandis que ici, nous avons une affirmation de l'unité qui se base sur une expérience historique de révélation qui a eu lieu, mais qui va se cacher. D'où la nécessité de l'exhortation. Shema Israël, prends garde Israël. Dans les trois lectures que nous avons eues, dans laquelle de ces lectures, l'exhortation est la plus grave, la plus importante, la plus nécessaire, la plus dramatique, comme on dit en hébreu moderne, dramatique. C'est laquelle ? Celle des enfants de Jacob à leur père ? Celle de Moïse à Israël ou celle des nations à Israël ? Vous vous rappelez de ces trois lectures ? Qui peut répondre ? La troisième, c'est quoi ? Pourquoi ? Raisonnez logiquement. Quel est le sens pshat du verset ? Le sens pshat du verset nous renvoie à laquelle de ces trois situations ? Celle du Midrash qui nous fait parler les enfants de Jacob à leur père, celle du Midrash que cite Rashi qui fait parler les nations s'adressant à Israël à la fin des temps, vous vous rappelez ? Ou bien celle de Moïse s'adressant à Israël ? Quand je dis la lecture pshat, ça veut dire dans le contexte historique du texte tel qu'il est. C'est Moïse à Israël. Et c'est d'ailleurs cela qu'on va reprendre en première partie du cours aujourd'hui. Bon, je suis toujours sur la première lecture. Pour vous indiquer que c'est un des versets qu'on ne peut pas traduire dans une autre langue, il faut longtemps de familiarité avec l'hébreu comme tel pour le comprendre en hébreu et voir qu'il est cohérent dans la langue hébraïque, mais qu'on ne peut pas le traduire dans une autre langue. Je vais vous montrer ça assez rapidement. Il y a toute une bibliothèque là-dessus, c'est un sujet d'étude pour lui-même, mais je vous signale parce que c'est important de le savoir. Alors, Shema, c'est l'exhortation à la connaissance, par explication, ça s'appelle l'entendement. C'est bien clair. Mais il faut passer, et c'est l'objet de l'étude, il faut passer au deuxième niveau, qui est le niveau de la vision. Je vois par moi-même. Parenthèse là, pour vous donner en contraste l'importance de Shema par rapport à Ré, puisque j'ai parlé surtout de l'importance de Ré par rapport à Shema. Vous suivez ? Tout le monde comprend ? C'est le problème du témoignage. Je crois que j'y ai fait allusion à un des cours, mais je ne me rappelle plus dans quel contexte, mais je le reprends. C'est-à-dire la réalité la plus difficile, je veux dire le comportement le plus difficile à réussir, à rendre authentique, c'est un témoignage. Pourquoi ? Parce qu'il faut arriver à savoir dire ce que l'on a vu. Or, devant le même fait perçu par différents témoins, on peut avoir un compte-rendu en parole différent. Et ça peut être dit autrement, mais vous avez compris l'idée. Okay. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de la difficulté d'être journaliste. Vous avez différents journalistes qui assistent au même événement. Le lendemain, vous lisez les différents journaux, c'est un événement différent. Et si vous entendez à la radio ou à la télévision, c'est encore autre chose. Vous avez compris le... Bon. Il y a un problème en lui-même, là. Ce qui fabrique ce qu'on appelle l'opinion publique, c'est le problème du témoignage. La difficulté d'être un témoin véridique. En général, le témoin est faux témoin. Vous avez compris le problème. Vous rattacherez ça, d'ailleurs, au commandement des 10 commandements, de l'interdiction absolue du faux témoignage. Si nous avions le temps, je vous montrerai un verset qui explique cela. Mais je vais vous le montrer quand même. C'est dans... Donnez-moi une minute, j'en ai un. Vous avez noté la référence. Voilà, vous prendrez dans le chapitre 17. Verset 19. Notez la référence, vous aurez vous-même le texte, je vous le dis très, très rapidement. Et c'est une série de commandements concernant les juges. On pourrait formuler cela de manière très très succincte, les consignes de la moralité du juge. À quelles conditions un juge juge authentiquement ? Bon, je vais vous dire quelles sont brièvement les 3 conditions qu'il faut pour qu'un jugement soit authentique. Il faut d'abord que la loi par rapport à laquelle on va juger l'événement soit connue authentiquement. On n'est pas simplement une connaissance approximative de la loi par rapport à laquelle on va juger l'événement. Vous comprenez qu'est-ce que c'est un jugement ? C'est confronter un événement avec une norme. C'est clair ? Donc, première condition, la connaissance de la loi. On va admettre que, par postulat, que cette condition est déjà acquise. Deuxième condition, il faut que la connaissance de l'événement soit authentique. Et ça dépend de qui ? Des témoins. C'est clair ? Troisième condition, il faut que le juge soit intègre. C'est clair ? Bon. Bon, le problème est beaucoup plus plein que cela, mais enfin, je me le signale en passant schématiquement. Alors, nous avons un verset et à ce propos, je vous ai donné la référence, c'est le verset 19 du chapitre... qu'est-ce que je vous ai dit comme chapitre ? Parlez plus fort, j'entends pas. Non, c'est 16. Donc... Et à la fin de ce verset, vous avez une exhortation au juge de ne pas accepter de shohab. Vous allez apprendre ce mot-là. Qu'est-ce que c'est un shohab ? Shohab. Shohab. D'accord ? Bon. C'est quand des plaideurs envoient un cadeau au juge pour arranger leur dossier. Comment ça s'appelle en français, j'ai oublié. Un pot de verre, oui, mais il y a un autre mot. Prébande, c'est pas ça ? Peut-être. Bon, vous avez compris l'idée. Alors, le commentaire sur ce verset se demande comment un juge en Israël peut accepter un shohad. Quelle est cette idée d'avoir à interdire cela ? Vous comprenez ? Alors, on rattache ce nom de shohad à qui a les mêmes lettres et qui est khashad. Qu'est-ce que c'est un khashad, l'ahjoud ?
C'est un khashad.
Vous savez ça ?
Khashad, c'est...
Insuspect, non ?
Ah, très bien. Eh bien, c'est à côté.
Khashad, c'est se prendre.
Non, l'ahjoud, c'est prendre quelqu'un pour quelqu'un d'autre. L'ahjoud, c'est suspecter quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a d'insuspect ?
Oui.
Donc, leur suspicion. Khashad. Un doute. Khashad. Ré. Ça veut dire voir, c'est ça. Alors, ça veut dire qu'il faut que le juge juge sans aucun a priori. Parce que s'il a une suspicion préalable, ça s'appelle un préjugé, Eh bien, c'est comme si il avait reçu un shohad, c'est-à-dire un pot de vin. J'ai compris le problème. La règle est très importante. Quand vous commencerez à apprendre les Mishnayot et Pirkei Avot, vous verrez à quel point c'est important. C'est-à-dire, et voilà une des dimensions de cette règle, les juges, en général, sont compétents, et ça veut dire qu'ils ont l'expérience des différents cas qui peuvent se présenter devant le tribunal. Alors, il est interdit à un juge de juger par analogie, en se disant, j'ai déjà eu un cas analogue, je l'ai étudié, je connais la réponse, donc je vais appliquer la réponse au cas analogue. C'est interdit, il faut refaire le procès, parce que chaque cas est un cas particulier. Vous avez compris le problème ? Voilà un exemple. Et alors, voilà l'expression à laquelle je vais arriver, qui a shohad, car le pot de vin, si vous voulez, yaver ene hachamim, yaver rend aveugle. Vous connaissez le mot de iver, aveugle. Okay? Rend aveugle les yeux des sages, suivez bien, visalef dibre tzadikim. Et mazel salef, silouf, les salef, vous ne connaissez pas ? Dénaturé et trompé, silouf, et dénature, dibre tzadikim, les paroles des justes. Alors je vais mettre en évidence ces deux expressions. Les yeux des sages, il faut être sage pour être capable de voir, la chokhma est nécessaire pour que la vision soit authentique. Et il faut être juste pour savoir parler justement. Vous comprenez maintenant les deux expressions. Les yeux des sages, les paroles des justes. C'est clair ? Bon. Alors si vous prenez les deux mots de les yeux des sages, aïn, aïn au pluriel, okay ? Et les paroles d'Ivrée, les varim où elle est à construire, qu'est-ce qu'il y avait comme mot qui apparaît là ? Aïn. Qu'est-ce que ça veut dire aïn ?
Témoin.
Témoin. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est témoigner ? C'est savoir dire ce que l'on a vu. C'est bien clair. Vous voyez donc l'importance du témoignage. C'est bien clair ? Alors, il est bien évident que l'authenticité d'un jugement réside essentiellement sur la qualité du témoignage. C'est ce qu'on appelle par exemple en français la reconstitution du crime. On va reconstituer ce qui s'est passé. Et pour cela, il faut que les témoins soient des témoins de bonne foi. Puisque par postulat, on va admettre que la loi est connue et que le juge est intègre. C'est clair jusque-là ? Alors, je referme cette parenthèse. Donc, Shema Israël, écoute Israël. Et ça veut dire que ça implique des explications qui vont nous être données par le Midrash. Hachem est l'occasion. Hachem, le premier mot que je lis par Hachem, qui en hébreu, ce mot de Hachem signifie « le nom ». Hachem, c'est clair pour tout le monde, okay? Parce que le nom propre de celui dont on va dire qu'il est Dieu est imprononçable. Vers la fin de l'année, on étudiera un petit peu plus ces choses-là, mais pour le moment, prenez les définitions les plus élémentaires. Okay? Alors, Hachem, Elokeinu, notre Dieu, Hachem, Echad, Hachem, un. Alors, je reprends la traduction, Shema Israël, écoute Israël, dans le sens que nous avons eu, Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu, Hachem Echad, Hachem 1. Soit il manque un mot, soit il y a un mot de trop pour la traduction. Je vais prendre ces deux hypothèses de lecture, il manque un mot. C'est-à-dire, il faudrait dire Shema Israël, Hachem Elokeinu, ou Hachem Echad. Hachem qui est notre Dieu, et lui, un Dieu, un. C'est clair ? C'est un peu ce que les traducteurs, en français en particulier, ont retenu comme méthode. On vous traduit, écoute, Israël, l'éternel est notre Dieu, l'éternel est un. Okay ? Le mot de éternel n'est pas du tout à sa place. Un jour, je vous expliquerai ça, je n'ai pas le temps, on peut prendre le temps aujourd'hui. Cette traduction vient des Bibles protestantes, et les Juifs, au moment de l'émancipation, on préférait traduire comme les protestants, quand ils étaient obligés de traduire en français, pour ne pas traduire comme les catholiques. Mais à une grande nuance près, c'est la traduction des catholiques qui serait préférable, parce que le mot de Hachem est lu dans la liturgie par le mot de Adonai, qui signifie « Monseigneur ». Et donc la traduction serait plus proche de la manière dont les Bibles catholiques traduisent « Écoute Israël », eux traduisent « Le Seigneur » et c'est déjà quelqu'un d'autre. Mais il faudrait dire « Mon Seigneur, Dieu reconnu comme souverain, okay, et Hachem Echad. » Alors la deuxième lecture, où il y a apparemment un mot de trop, Il suffirait de dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Echad. Là, c'est clair, dans la traduction. Vous avez compris? Écoute Israël, Hashem, qui est notre Dieu, est un. Bon. Alors, voilà donc le verset. Il y a là donc une exhortation. Et la forme même du verset montre qu'il s'agit d'une attestation que quelqu'un dit à quelqu'un d'autre en le nommant Israël. Quelqu'un s'adresse à Israël pour lui dire « Écoute Israël, Hashem Elokeinu, Hashem qui est notre Dieu, toi et moi, Hashem Echad est un Hashem un. » Et la nuance de sens que je vous ai donnée en français, nous avons suivi cette lecture pour rentrer dans le rite du Kriyat Shema, c'est que ici, le mot de « un » signifie « c'est le même ». C'est clair ? Donc il nous faut restituer la situation de danger de croire qu'il en serait autrement, à laquelle ce verset vient répondre en exhortation. C'est clair ? Vous avez compris ? Je fais une petite parenthèse au niveau stam pédagogique. Et je vous ai dit souvent, nous sommes tellement familiers à certaines évidences que nous les prenons pour des évidences rationnelles qui iraient de soi sans information. C'est clair ? Cette notion très importante de l'unité de Dieu, monothéisme, derrière laquelle nous avons surtout exploré la notion de l'unité des valeurs. Et vous suivez dans notre cours sur l'histoire des patriarches que c'est l'unité des valeurs qui se cherche dans les engendrements des avots. Vous vous rappelez de cela ? C'est bien clair pour tout le monde ? Bon. Et nous sommes tellement familiers à cette évidence que nous la prenons pour une évidence rationnelle ou expérimentale, alors qu'en réalité, du point de vue de l'être de nature, livré à ses propres forces, ni par sa raison, ni par son expérience, il ne peut arriver à l'évidence de l'unité des valeurs. Il y a eu une certaine période du temps de la prophétie, la génération de la sortie d'Égypte, qui a eu expérience de cela. L'unité profonde des valeurs à travers lesquelles le Créateur dirige le monde s'est dévoilée, et puis s'est cachée. Et d'où la nécessité de cette exhortation. C'est clair ? Bon, je ne vous fais pas toutes ces analyses. Un homme de culture en dehors de la tradition biblique, en dehors de la confirmation de la révélation prophétique, peut avoir l'hypothèse de l'unité des valeurs, mais ça restera toujours une hypothèse. Rien dans la raison ni dans l'expérience ne peut confirmer cela. La confirmation ne peut venir que d'un événement qui est au-delà de la raison, de l'expérience, et qui est événement de révélation. Vous avez compris pourquoi ? C'est-à-dire quelqu'un qui, faisant fonctionner sa raison, arrive au dualisme, et vous savez à quel point il y a eu énormément de traditions culturelles foncièrement dualistes. C'est clair ? Ça ne veut pas dire qu'il est irrationnel. Au contraire, sa raison fonctionne très bien. Un des principes du fonctionnement de la raison, c'est le principe d'identité. Qu'une chose n'est pas une autre chose. Or, l'affirmation de l'unité des valeurs consiste à affirmer que des absolus contraires, vous vous rappelez de ces analyses, c'est la même valeur. C'est au-delà de la raison. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas comprendre de quoi il s'agit, mais pas par la raison. C'est clair ? Et même si le génie spirituel d'un homme de culture lui fait entrevoir l'hypothèse de l'unité des valeurs, ça lui reste pas comme hypothèse. C'est pas par le raisonnement qu'on arrive au monothéisme hébreu. C'est par la compréhension d'une révélation, d'un objet de foi. C'est clair jusque-là ? Alors, quand c'est caché, c'est un objet de foi. Quand ça se dévoile, c'est un objet de vérité. Vous vous rappelez qu'on a vu cette analyse ? Le jour, ça se dévoile, la nuit, c'est caché. Celui qui a vu dans le jour sait que c'est comme ça, même dans la nuit. Mais celui qui n'a pas vu dans le jour ne peut que faire confiance à celui qui a vu dans le jour. Vous avez compris ? C'est pourquoi dans la lecture du Kriyat Shema, la bracha qui suit les chapitres de la Torah avant le Kriyat Shema, le matin, nous disons « Emet v'yatsib », c'est vrai. Et c'est vrai que c'est vrai, alors que le soir on dit « Emet ve'emuna », c'est vrai, et c'est un objet de foi. Parce que la nuit on ne voit pas, c'est le jour qu'on voit. C'est clair cela ? Je vais vous donner une image. Imaginez des hommes perdus dans la forêt pendant la nuit. Eh bien, pour pouvoir sortir de la forêt, il faut qu'ils s'accrochent à quelqu'un qui avait traversé la forêt pendant le jour et qui n'a pas pensé quand même pendant la nuit, pour aller conduire pour sortir de la forêt. Vous avez compris ? C'est bien clair ? En général, dans la symbolique de ces midrashim, celui qui conduit des gens qui sont perdus dans la nuit dans la forêt, est appelé aveugle par rapport à ceux qui voient. Mais comme c'est la nuit, il ne voit pas. C'est l'aveugle qui voit. C'est clair ce que je dis ? On en a déjà parlé, peut-être ?
Bon.
Voilà, en général, vous trouvez dans ces thèmes, et même dans d'autres traditions, que le guide est toujours défini comme quelqu'un qui est aveugle. Vous savez ça ? Par exemple, Homer était aveugle, comme par hasard. Qui, dans le récit biblique, le premier grand poète de... Mémère. Oui. Alors, je vous avais dit à l'époque, aveugle aux apparences du monde extérieur. Et il a une vision intérieure. Et cette vision intérieure, c'est une vision de mémoire. Pour reprendre cette image, imaginez quelqu'un qui a exploré la forêt pendant le jour. Alors, il sait, là, il y a une pierre, là, il y a un trou, là, il y a un chemin peu possible, là, il y a des arbres, là, il y a des ronces, il y a des épines. Bon. Et puis, voilà que la nuit arrive sur la forêt. Et puis les hommes dans la forêt sont en pleine nuit, mais il faut qu'ils sortent de la forêt, sinon il y a les bêtes sauvages. Donc, vous comprenez, c'est très joli comme midrash. Et alors, ils rencontrent quelqu'un qui leur dit, eh bien, venez avec moi, je vais vous faire sortir. Et puis ils suivent, eux voient, mais ils voient rien, puisque c'est la nuit. Lui a vu, donc il ne se préoccupe pas de ce qu'il ne voit pas, puisqu'il voit qu'il n'a vu. Alors on dit qu'il est aveugle par rapport aux autres, mais c'est lui le clairvoyant. Ça y est, c'est bien clair. Voyons. Ça va ? T'as compris ? Top. Et alors, retenez bien cette image, elle est très importante. Je vais vous donner un autre midrash qui se greffe là-dessus, peut-être je vais les citer. Pourquoi cette exhortation de la Torah s'adresse en particulier à Israël ? Daver el Bene Israël, parle aux enfants d'Israël, c'est le verset clé de la révélation. Vous vous rappelez, j'en ai parlé de différentes manières. N'oubliez pas cela, il faut toujours prendre les choses exactement comme elles sont écrites. Alors, différentes questions se posent autour de ce verset. Parle aux enfants d'Israël. Regardez, encore une fois, on est tellement familier qu'on croit que c'est comme ça que la Bible doit parler. En général, on a eu, à cause des traductions, un style de pastiche du style biblique. Vous savez que c'est un pastiche, okay ? Et on ne prend pas garde au sens des mots. Bon, la première question fondamentale, on l'étudie dans notre cours, il y a le temps des pères et le temps des fils. Vous vous rappelez de cela ? Alors, la Torah ne parle pas aux pères, aux avot, elle parle aux banim. Je vous ai dit la raison essentielle, moi, avant d'analyser en détail. Okay. Les Bnei Israël, c'est quand les descendants des patriarches se constituent en collectivité, en nation. Le temps des avot, ce sont encore des individus. Bon, vous retiendrez cela par la suite. Il y a deux manières d'être Israël, comme à la limite, il y a deux manières d'être homme. Il y a la manière d'être père et la manière d'être fils. Et ce n'est pas une question d'état civil. Vous rappelez, je vous donne un exemple en court-circuitant nos problèmes. Vous aurez étudié un verset extrêmement important lorsqu'on arrivera à la relation entre le messianisme et le sionisme, plus tard. Un verset qui se chante d'ailleurs dans les mouvements de jeunesse. Peut-être que ça va vous rappeler quelque chose. Veshavu banim nikboulam. Vous connaissez ce verset ? Trois mots. Vous ne connaissez pas ? Bon, demandez. Vous allez passer Shabbat avec Yosef, je pense. Et demandez-lui qu'il vous apprenne ce chant-là. Oui, c'est un chant de mouvement de jeunesse, comme par hasard. Vous allez voir pourquoi. Veshavu, banim et gulam. Je traduis. Veshavu et reviendront. Veshavu, banim, les fils, les enfants, les gulam à leurs frontières. C'est-à-dire, ceux qui reviennent d'exil s'appellent les fils. Et les pères, ils ne reviennent pas. Vous avez remarqué que les pères ne reviennent pas avec les fils. Vous avez dit, il y a une différence de l'être père et de l'être fils. Je ne veux pas prendre trop de temps aujourd'hui pour parler de cela. Mais je reviens au verset. Daver el Bene Israël. Rappelez-moi pourquoi je vais le citer. Le point, pardon. Ah oui, oui. Alors à ce propos, il y a parmi d'autres midrashim, un midrash extrêmement important qui va nous donner une image. C'est un peu l'image de la nuit dans la forêt, mais transmonté à un autre niveau. Il y a enfermé dans une caverne un coq et une chauve-souris. J'ai cité ce midrash ? Non. Oui, je crois que oui. Je vais le rappeler pour votre mémoire. Et puis, vous savez que le coq, à minuit, commence à chanter pour le matin qui va venir. Alors, ça avait duré très longtemps, l'histoire dans la caverne, bien que le coq soit dans la caverne, à minuit, il chantait. Et en fin de compte, à force de l'entendre, la chauve-souris s'est mise à chanter aussi. Vous vous rappelez de cela ? Alors un jour, le coq, fatigué d'entendre la chauve-souris lui répéter « Shema Israël », finit par lui dire, mais enfin, pourquoi tu chantes? Il dit, ben, je fais comme toi. Il dit, non, moi, je sais ce que je fais, parce qu'un jour, il y aura la lumière, et moi, je peux vivre dans la lumière. Tandis que toi, c'est dangereux pour toi, si tu vas dans la lumière. C'est clair? Vous vous rappelez? Bon, pour rattacher l'idée de base, c'est-à-dire, pourquoi la Torah s'adresse centralement au Bnei Israël? Parce qu'ils sont censés être capables d'une identification de ce dont la Torah parle. C'est clair jusque-là? Pourquoi? Parce qu'ils ont eu, dans le jour, l'expérience de qu'est-ce que ça veut dire, au temps de la révélation. C'est bien clair? Et même si cette mémoire est très occultée, finalement, elle réapparaît toujours. Il suffit de savoir comment libérer l'étincelle de lumière qui était cachée derrière les cendres de l'histoire, de l'assimilation. Vous avez compris ça? C'est bien clair? Mais pour ça, il faut chemin. Pour ça, il faut... c'est l'objet de l'étude. Il faut une explication qui identifie. Je vous ai une autre parenthèse qui est importante. On aura peut-être un jour une étude spéciale là-dessus. Le problème de la traduction. Je vais vous donner quand même la référence tout de suite. Et vous la travaillerez vous-même. Sinon, on ne va pas commencer le cours encore aujourd'hui. Alors, c'est au chapitre 5 de Devarim. Notez, chapitre 5. Non, c'est pas. Je crois que c'est le chapitre 1, verset 5. Voilà, c'est ça. Alors, vous chercherez le chapitre 1, verset 5 dans Devarim. Devarim, vous avez déjà appris en bibliographie, c'est le cinquième livre qui s'appelle le Deutéronome en français, et où Moïse récapitule la Torah pour la génération des enfants qui vont rentrer en Eretz Israël. Vous vous rappelez de cela? Les quatre premiers livres sont révélés à la génération des pères qui sont sortis d'Égypte, et le cinquième, c'est la récapitulation de la Torah, Mishneh Torah en hébreu, pour la génération qui va rentrer en Eretz Israël. C'est clair jusque-là? Alors le verset dit, au-delà du Jourdain, Be'eretz Moab, dans le pays de Moab, Hoïl Moshe, Moïse a commencé, Be'er, les Va'er, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas appris ça à l'Upan? Les Va'er? C'est bon, Be'er, qu'est-ce que c'est? Un puits. Alors la racine, d'où vient le mot Be'er, qui veut dire le puits, la racine signifie expliquer, éclaircir. Les Va'er, un biour, une explication. Qu'on ne fait pas avec un mot qui est très voisin, qui a à peu près un sens analogue, le biour, les Va'er. Que ça veut dire les Va'er? Avec deux lèches, les Va'er, les Va'er, trier. Birour, une élucidation, un tri.
Bon.
Bina. Non.
Bina.
Non, Bina, c'est une toute autre racine.
Non, mais c'est pas, ça ne veut pas dire aussi tri.
Bina, non.
Triage.
Non, non. Ça, c'est, Bina, c'est l'intelligence. C'est au contraire le geste de relier une notion à une autre. C'est-à-dire de mettre en évidence ce qu'il y a entre cela et cela. Interligueré, en latin. Comment on dit entre avec cette racine? Ben, bet, yud, yud, nun. Bina, c'est le geste du comportement qui permet d'établir des relations entre telles notions. Ça s'appelle en français l'intelligence dans le sens simple. Alors, l'intelligence implique le discernement, mais c'est un sens second. Discerner, ça veut dire savoir distinguer entre une chose et une autre. C'est à ça que tu pensais?
Oui.
Oui, mais ça ne veut pas dire trier. C'est les barrières. Alors voilà, notre verset nous dit, et Moïse a commencé à expliquer, et ta Torah azot, cette Torah. Et Rashi, vous verrez donc Rashi sur ce verset, Rashi sur le mot be'er, expliquer, Rashi dit, be'shivim lachon. Qu'est-ce que ça veut dire, be'shivim lachon? Shivim, c'est quoi? 70. Lachon?
Non.
En 70, donc. Bon. Alors, le midrash sur lequel se base Rashi, vous reverrez dans le texte, implique que la Torah peut être traduite dans toutes les langues des nations, puisque vous rappelez que le 70 récapitule toute la multiplicité des goïms et des langages. Vous vous rappelez de cela? Les 70 langues, les 70 nations, ça veut dire la multiplicité. Et alors ce Rashi semble contredire tout ce que je viens de dire, que la traduction est plus loin possible. Bon. Alors à quelles conditions la traduction est possible? Vous avez dans Rashi, faites travailler ce qui vous sert de ménage. Vous raisonner. Simplement, qu'est-ce que dit le verset ? Moïse a commencé à expliquer.
Avec l'explication ?
Non. Et Rachidi a expliqué en 70 langues. Alors, notre question est, comment c'est possible d'expliquer la Torah dans une autre langue que l'hébreu ? C'est clair ? Alors, à quelles conditions c'est possible ? La réponse est toujours très simple, mais vous cherchez en haut, en bas, ailleurs. Quand c'est Moïse qui explique, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Ça veut dire, si c'est un hébreu qui traduit dans une autre langue, il y a des chances que la traduction soit exacte. Si c'est un goy qui traduit de l'hébreu, il va mettre sa langue goy dans l'hébreu. Vous avez compris le problème ? Ça va ?
C'est la même chose, non ?
Hein ? Ah, pas du tout. Et j'espère que vous commencez déjà à comprendre ça par expérience. Mais je vous rappelle le schéma général. Devant le même phénomène de livre, la Bible, une fois qu'elle a été mise par écrit, imprimée, diffusée. Quand c'est un latin qui lit la Bible, il en sort quoi ? Le catholicisme. Quand c'est un anglo-saxon, le protestantisme, etc. Vous vous rappelez de ça ? Quand c'est un juif, c'est peut-être la Bible, si c'est un juif hébreu. Ça va ? C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas l'homme de cette langue, voulant traduire cette langue dans sa langue à lui, il va projeter sa langue à lui dans cette langue-là. Si c'est Moïse, l'hébreu, qui traduit pour un autre peuple, alors il y a des chances que l'explication, la traduction soit exacte.
Mais nous, on la traduira aussi en vocabulaire.
Justement. C'est-à-dire que vous avez un effort de désintoxication au maximum à faire. Parce que vous avez, dans la mashmaout, la signification des mots hébreux que vous avez, c'est une signification française, pas hébraïque. Il faut passer de l'un à l'autre. C'est clair ? Je vous donnais une petite règle. Qui, je crois que je vous l'ai cité une fois, qui nous vient de l'expérience. Quand vous commencerez à rêver en hébreu, c'est gagné. Et c'est pratiquement pas important si c'est en noir et blanc ou en couleur. Faut qu'il y ait une importance. Bien. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, je vais quand même commencer le cours d'aujourd'hui, alors je ne demanderai pas trop d'exemples, mais. On peut apprendre des exemples, de prendre des notions dans le vocabulaire français, par exemple. Et des notions qui ont une connotation gréco-latine, qu'on le veuille ou pas. Et non seulement gréco-latine, mais grévée de mentalité chrétienne. Okay. Eh bien, la connotation du mot hébreu en hébreu est différente. Vous avez compris ? Vous rappelez par exemple l'exercice qu'on a eu sur le mot de tefila, pour arriver à faire l'équivalent, le sens de prière au mot de tefila. Vous rappelez de cela ? Que c'est pas du tout la même mashmaout, ça veut dire signification. C'est clair ? Alors, lorsque vous lisez la Bible hébraïque en français, j'espère que depuis le début vous en êtes rendu compte, c'est un autre livre. Ce n'est plus le même. C'est clair ? Pourquoi ? Parce qu'on a projeté sur la langue hébraïque qu'on voulait traduire la mentalité de la langue avec laquelle on traduit. Alors, la véritable traduction, c'est l'inverse. C'est quand l'hébreu parle une autre langue. Alors, il met l'hébreu dans cette autre langue. Ça va jusque-là ? Vous avez compris ? C'est le problème de l'extrême difficulté. De la traduction. C'est pourquoi une traduction ne peut être que paraphrase. J'ai des commentaires pour faire paraphrase. Bien. Alors, voilà donc la parenthèse que je voulais vous faire. Maintenant, rappelez-moi pourquoi je voulais parler de ça et qu'on arrive quand même à notre étude. Okay. Est-ce que vous êtes au cinéma permanent ? Pourquoi je vous ai parlé de ça ? D'Aver Ben Israël. Vous mélangez un peu tous les livres. Non, nous étions sur un principe bien précis. C'est que pourquoi la Torah s'adresse aux enfants d'Israël ? Vous vous rappelez ? Parce qu'ils sont censés disposer d'une source d'identification de ce dont la Torah parle. Vous vous rappelez, ceux qui ont vu pendant le jour comment était le monde peuvent parler ce discours quand le monde est dans la nuit. C'est clair ? Bon, c'est une des dimensions de la prophétie, de la mémoire prophétique. Et ensuite, au deuxième niveau, c'est les enfants d'Israël qui parlent aux autres, mais à condition qu'ils parlent à partir de l'hébreu. C'est clair jusque-là ? Bon, je crois que c'est pas compliqué. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les traductions se sont substituées à la Bible elle-même. Et ça, on l'a appris à propos de Hanouka, que de toute traduction de la Bible est d'abord grecque. Vous vous rappelez de cela ? Il y a peut-être une tentative, je ne sais pas si vous en avez parlé aujourd'hui, la seule que je connaisse après la tentative d'Edmond Flegg, Vous aviez entre les mains la traduction du fromage par Edmond Fleck, peut-être ? Non ? Ça vous dirait ? Bon, en tout cas, de notre temps, il y a André Chouraki qui a fait une tentative de... Vous avez entendu parler d'André Chouraki ? D'essayer de réhébraïser la traduction française. Alors finalement, c'est une réussite poétique indéniable, mais on pourrait discuter sur chaque verset, mais en tout cas, il y a un progrès. Il y a une espèce d'atmosphère hébraïque qui apparaît quand même. Vous comprenez ? Quelle ? Mais rapidement, hein.
Et la traduction anglaise de la Renaissance, elle est partie
de... En anglais, oui.
Elle est faite sur le texte hébreu ?
Oui. Il y a une autre raison pour laquelle elle est plus proche du texte hébreu qu'une traduction française ou allemande, par exemple. C'est que la langue anglaise classique s'est constituée à travers la traduction de la Bible. Donc, c'est la raison. Et ça, c'est la raison pour laquelle un texte hébreu traduit en anglais est toujours plus proche du texte hébreu que toute autre traduction. Ici, il s'agit de l'anglais classique. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a une prétention de l'Angleterre, des Anglais, d'être le véritable Israël. Hein ? Non, pas la langue universelle, d'ailleurs. C'est pas pour rien, finalement, que tout ça, ça s'organise ensemble, mais on n'a pas le temps de voir ce qu'il y a dedans. Hein. Simplement, je vous signale en passant, c'est que la Bible, la plus grande diffusion de la Bible, s'est faite par les Anglais, et que c'est des mains des Anglais, on les a un peu aidés, qu'on a reçu Eretz Israël. Hein, vous remarquez ça. Et alors, ils ont comme ça des prétentions, ils s'appellent l'homme de l'Alliance, British. Je crois que c'est peut-être pour ça que nos juges pieux tiennent tellement à ressembler à des Bretons, le chapeau rond. Bien, allez, reviens à notre problème. Alors, et voilà donc pour ce que je voulais vous indiquer pour la difficulté de traduction du premier verset. Il y a là une exhortation à ne pas oublier le principe d'unité des valeurs qui s'est révélé une fois et s'est caché. Un des midrashim du Zohar élargit cette notion de façon extrêmement importante en posant la question, il y a différents midrashim sur cette question, celui que je vous cite se relie un peu à notre sujet, pourquoi la Torah commence par Bet ? On devrait s'attendre à ce que la Torah commence par Aleph. Je ne parlerai pas du contenu de ce midrash aujourd'hui, ça me prendrait trop de temps. Mais ça indique que le monde dévoilé commence par la dualité. Bête, ça veut dire deux. Et que le Aleph, l'unité du monde dévoilé, est caché. Le Aleph est caché. C'est clair juste là. Il y a une très belle page de M. Neher dans l'existence juive, je crois. Il a un chapitre là-dessus.
Ça finit par Bête.
Non, ça finit par Tav. Ça finit par l'âme, la Torah finit par l'âme. Et qu'est-ce que je disais ? Ça m'a fait penser à autre chose. Oui. Et alors, je parlais du Aleph qui est caché. C'est de ça qu'on parle. La référence à la connaissance de l'unité des valeurs. Mais cette unité des absolus, et vous rappelez que c'est un vrai problème, parce que les absolus sont tous authentiques mais contradictoires. Vous vous rappelez de cela, la charité, c'est pas la justice, etc. C'est clair ? Pour focaliser cela au niveau des concepts de la culture contemporaine, vous avez la culture contemporaine connaît trois grands absolus. Le beau, le vrai, le bon. Le beau, l'esthétique, le vrai, la logique, le bon, la morale. Or, il n'est pas du tout évident que ce qui est beau soit vrai, que ce qui est vrai soit beau, que ce qui est bon soit beau. Quand ça coïncide, apparaît une expérience particulière de l'unité des valeurs. Mais cette coïncidence des trois grands absolus, dans la thématique juive, il y en a 13, enfin je les schématise dans ces trois-là, cette coïncidence est surnaturelle. C'est quelque chose de caché complètement qui se dévoile dans tel ou tel événement. Le Midrash auquel je pense dit que pour comprendre cela, que c'est possible la coïncidence des trois choses, le beau, le vrai, le bon, il faut comprendre le regard des enfants. Dans le regard des enfants, ça signifie. Donc, retenez bien cela. Et alors, ça s'appelle Aleph, cette unité cachée. Et lorsqu'elle se dévoile, elle se dévoile d'abord par la lettre P, ensuite la main, ensuite Aleph. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot, Pélé ? un miracle. Oui. Le Aleph, lorsque le Aleph rentre dans le monde, dévoilé, il rentre à l'envers. Okay. C'est d'abord le P, ensuite le Lamed, ça fait Pélé. Alors, je referme cette parenthèse. Bien. Alors, on a compris pourquoi il y avait place à une exaltation. Je ne vais pas recommencer complètement court. Mais surtout dans la formule que quelqu'un s'adresse à quelqu'un qui se nomme Israël pour attester qu'il y a un même Dieu. C'est clair jusque-là? Alors, on a analysé cela très en détail. Il n'y a que trois situations qui rendent compte de l'exactitude de cette formule. C'est quand les enfants de Jacob s'adressent à leur père, le premier homme qui s'est nommé Israël, pour dire « Écoute Israël, notre père, Hachem, qui est notre Dieu, chacun des tribus, okay, Echad est un. » Ça va jusque-là? C'est le problème de l'unité de l'homme. La deuxième lecture, c'est quand Moïse s'adresse à Israël, dans le livre de Devarim, dans ce verset, okay, pour exhorter Israël à ne pas oublier que, et je vais employer deux expressions qui ne sont pas dans le texte, mais pour éclairer le problème, que Hachem, Dieu de Moïse, et Hachem, Dieu d'Israël, c'est le même. Nous reviendrons aujourd'hui sur ces deux éléments. Okay. Et Rashi, ça nous prend peut-être une autre fois, mais entre-temps, vous l'étudierez dans le texte d'Hébreu avec Rivon. Rashi nous suggère une troisième lecture. À la fin des temps, ce sont les goyim, les nations, qui diront à Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, on a déjà des pressentiments de cela. C'est clair jusque-là. Bon, alors, je ne reviens pas sur la première explication du Midrash. Quand les enfants de Jacob